Le secours populaire encore plus indispensable en cette période de crise sanitaire. Comme d'autres associations caritatives, l'antenne mayonnaise du secours populaire a vu son activité augmenter depuis un an. Entre mi-mars et mi-mai 2020, ces actions ont aidé 5400 bénéficiaires, soit un millier de plus que d'habitude. Gilles Lemoine est le secrétaire général du secours populaire en Mayenne et il rappelle que leurs actions ne se limitent pas à l'aide alimentaire.
C'est vrai que c'est la porte d'entrée, c'est quelque chose de basique et d'indispensable, mais c'est aussi donc des cours de français pour les non-francophones, des cours de code de la route, un relais santé qui permet aux gens de passer notamment des bilans de santé, et puis aussi une ouverture vers des zones qui sont un petit peu abandonnées, hein, donc ce qu'on appelle les zones blanches. Donc on a une antenne mobile qui va sur Landivy, Fougerolles, Duplessis et Saint-Marc-sur-la-Futaie. Et puis également, actuellement, on est sur un projet fracture numérique en milieu rural. Et donc, on va essayer de fournir du matériel aux enfants collégiens, notamment, qui ne disposent pas de ce matériel de base fort indispensable ces jours-ci.
Mais surtout, effectivement, en ce moment, avec tous les cours en distanciel, etc. Comment est-ce que vous avez été alerté sur ces besoins en particulier?
Hélas, c'est la situation Covid qui nous a pointé ce problème-là, à savoir que certains, effectivement, ne pouvaient pas suivre des cours en distanciel comme d'autres, parce qu'ils n'avaient pas le matériel pour. Et donc, la fracture était grandissante par rapport à ces populations, je dirais, en état de difficulté et de précarité. Et donc ça a augmenté encore cette distance entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, en fait.
Et alors là, du coup, quel est le projet et sur quel établissement est-ce que vous comptez intervenir?
Alors on intervient pour l'instant, parce qu'on va avoir des moyens, mais qui seront quand même limités. Donc on intervient sur les collèges sur lesquels on a des structures, à savoir Pré-en-Paille, Villaine-la-Juelle, et puis le secteur Landivy, Fougerolles-du-Plessis et Saint-Marc-sur-la-Futaie, comme je disais. Donc sur ces collèges-là, collèges privés et collèges publics. Et donc avec les principaux ou principales de collèges, on se rencontre, on discute du problème. Ils voient un petit peu les familles qui auront des besoins par rapport à ça. Et puis ça nous permet de nous mettre en relation avec ces familles-là, puis de voir quels sont les besoins. Et on se rencontrera pour pouvoir faire en sorte que ces gens-là puissent aussi bénéficier de matériel indispensable maintenant.
Et vous comptez en tout cas organiser un petit temps de formation, ou tout du moins des conseils pour pouvoir bien utiliser correctement justement ces ordinateurs?
Alors dans la convention qu'on va signer avec les familles, on va demander que les enfants soient aussi acteurs par rapport à leur famille. C'est-à-dire que si les familles ne sont pas trop habituées à ce fonctionnement, que les enfants qui eux vont l'être parce que déjà ils sont au collège et ils l'ont, puissent mettre leur famille derrière un ordinateur sans crainte. L'objectif qu'on demandera, c'est que chaque famille puisse ouvrir au moins une boîte mail, une adresse mail, hein, de façon à ce qu'ils puissent se mettre, parce que maintenant tout va être passé par Internet, hein, quand c'est déclaration d'impôt, c'est la CAF, c'est tout. Donc c'est aussi les enfants qui seront formateurs, et c'est ce qui nous plaît bien par rapport à ça aussi. Puis on va informer les familles sur aussi les risques et les dangers d'Internet par rapport aux enfants. Hein, donc on va d'office mettre un contrôle parental, mais expliquer aussi aux familles que l'ordinateur il n'est pas dans la chambre de l'enfant, parce que le soir, la nuit, c'est fait pour dormir. Et donc plein de petits conseils qu'on aura l'occasion de développer quand on rencontrera les familles.
Et donc du coup, je vais revenir aussi sur ce que vous disiez avant. Vous intervenez là, entre autres, dans ce que vous appelez les zones blanches, donc qui correspondent d'ailleurs, j'ai l'impression, un peu au secteur où vous intervenez par rapport à la fracture numérique. Est-ce que c'est le confinement qui a mis ces zones blanches en apparition, ou elles existaient déjà avant?
Alors, les zones blanches existaient déjà, hein, parce que ça fait déjà 3 ans qu'on essaie de voir un peu ce qu'on peut faire au niveau de ce secteur-là. Mais la zone blanche dans la fracture numérique, on n'en avait pas franchement conscience, en fait. On a vraiment pris conscience par rapport à la crise qu'il y a eu. C'est ce qui fait que sur les secteurs où on est déjà installé pour l'aide alimentaire, on puisse aussi aider les gens sur d'autres domaines, quoi. Sachant que toutes ces structures-là aussi développent les vacances, hein, déjà depuis un certain temps. Ça permet aussi à ces personnes-là de passer quelques jours un peu en dehors de leur mur. Hein. Ça fait partie aussi de nos missions, on va dire.
Et justement, quels enfants ou adolescents peuvent avoir le droit à ces vacances?
Tous. tous sans exception, hein, à partir du moment où on a une famille. Alors on travaille en lien avec la CAF, hein, parce que la CAF a aussi une orientation assez forte par rapport aux vacances. Donc par rapport à ça, on monte les dossiers avec les familles, mais aussi on a nos propres fonctionnements et financements, hein, qui permettent, et puis aussi on a des partenaires, hein, qui nous permettent aussi de nous mettre des places, hein, que ce soit EDF, SNCF, Kinder, qui nous offrent des places et qui permettent aux enfants de passer 8 jours en vacances sans que ça coûte trop cher à leurs parents.
Et ça bénéficie à combien d'enfants ou de familles, en tout cas ici en Mayenne?
Alors je n'ai pas le nombre exact en nombre d'enfants qui sont partis, alors pas trop sur 2020 parce que ça a été assez perturbé, hein, mais sur 2019 c'est une vingtaine, 20 à 30 enfants qui peuvent partir seuls comme ça. On arrive à faire partir aussi une vingtaine de familles, hein, principalement sur les terrains de camping. Et puis aussi on a des journées organisées parce que parfois les familles ne sont pas encore prêtes à partir en vacances, hein, parce que ça demande quand même quelque chose d'un peu particulier pour ces familles. Là. Et donc on organise des journées, des sorties à la journée. Alors notre célèbre JOV, journée des oubliés des vacances, après la mi-août, qui permet aux familles et surtout aux enfants qui ne sont pas partis de passer au moins une bonne journée et d'avoir quelques souvenirs à raconter le jour de la rentrée.
Et alors ça justement, elle avait été maintenue en 2020 ou pas forcément?
Et non, hélas, hein, parce que c'est un regroupement sur la région, hein, on regroupe quand même plusieurs milliers d'enfants. Et donc voilà, tout était prêt, mais hein, c'est resté dans les caisses pour l'instant. Et on espère que cette année, on pourra y aller. Alors si par hasard on ne peut pas, on fera des petites sorties, mais beaucoup plus limitées en nombre. Hein, faire sortir 2 ou 3 familles sur un projet, sur un endroit. Hein, et à ce moment-là, on pourra multiplier ce genre de procéder plutôt que d'avoir vraiment le grand groupe qui, effectivement, Covid étant, pose quand même certains problèmes.
Forcément, c'est vrai que c'est compliqué sur cette action-là. Est-ce que plus globalement, la crise sanitaire a eu un gros impact sur vos activités?
Alors sur nos activités propres, oui, parce que quand on a été fermé ici, c'est que sur au niveau de l'espace vente, que ce soit chez nous ou dans les comités, automatiquement c'est de l'argent qui ne tombe pas. Hein, donc ça a quand même impacté assez sérieusement les finances. Bon, heureusement, que ce soit les communes, le département, la région ou l'État sont quand même intervenus pour limiter énormément les dégâts. Il y a toute une organisation justement pour respecter des règles d'hygiène qui font que il y a un investissement indispensable par rapport à ça. Et puis plus une information, parce que nous on insiste aussi sur le fait qu'il y a le matériel, mais il y a aussi l'information auprès du public, de façon à ce que les gens soient bien au courant de ce qu'il faut faire et ne pas faire.
Donc ça veut dire que oui, il a fallu très concrètement vous équiper, j'imagine, en masque, en gel hydroalcoolique.
Masque, gel hydroalcoolique, cloison mobile pour faire des parcours, distributeur de gel, barrière de plexiglas un petit peu partout. Hein, donc effectivement, c'était un gros équipement, mais bon, on y tenait, du moins j'y tenais toujours. Hein, ce qui est un maximum de sécurité à tout niveau, que ce soit pour les bénévoles. Hein, c'est peut-être aussi ce qui fait que certains bénévoles, la plupart des bénévoles sont revenus sans état d'âme, parce qu'ils sont aperçus qu'effectivement, on allait prendre toutes les précautions qu'il fallait. On était fermé pendant la période de confinement total. Hein, et puis sinon, oui, alors qu'on a une jauge, bien sûr, de personnes qui peuvent venir. Mais sinon, grosso modo, oui, les gens sont revenus à peu près comme avant.
D'accord. Il y a peut-être par contre, malheureusement, plus de personnes qui sont bénéficiaires de l'aide alimentaire.
Alors là, ce que je disais, on a augmenté en gros entre 30 et 35% du nombre par rapport, quand je parle de janvier 2021 par rapport à janvier 2020. Hein, et sur la totalité des chiffres, on s'aperçoit que quelles que soient les tranches d'âge, quelles que soient les situations professionnelles ou pas, on est dans cette zone de 30-33% d'augmentation de personnes qui sont en demande.
Et vous parlez justement des catégories professionnelles, ou en tout cas, est-ce qu'il y a des populations que vous ne voyiez pas forcément avant, que vous voyez de plus en plus avec cette crise, ou peut-être même, on va dire, plus globalement depuis quelques années?
Alors, sans faire le lien vraiment direct en chiffres, on s'aperçoit quand même qu'on a 97 personnes qui étaient en intérim. Et donc qui viennent chez nous, ça veut dire qu'elles n'ont plus cette possibilité-là, hein, de travail qui leur permettait de temps en temps de sortir un petit peu la tête de l'eau. Donc ça, c'est, je vous dis, 97 personnes qu'on ne voyait quasiment pas, hein, et qu'on voit maintenant. On a aussi des retraités, mais ça date depuis un petit moment, où le nombre de retraités augmente quand même régulièrement, puisqu'il y a quelques années, on en avait 2 ou 3. Là, on doit être à 70, hein, personnes à la retraite qui sont obligées de venir, et hélas, qui devront venir je crains un certain temps parce que les retraites ne nous monteront pas au point de ne plus venir, quoi.
Donc c'est vrai qu'il y a ces changements-là, peut-être même un peu plus à moyen terme. Là, qu'est-ce que vous espérez pour cette année? Parce qu'on se doute que tout, même lorsqu'il y aura plus ce spectre du Covid, tout ne va pas repartir d'un coup. Qu'est-ce que vous espérez pour cette année 2021?
C'est la grosse interrogation, en fait, hein, parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va redémarrer, mais je pense que c'est effectivement pour nous, pour les personnes qu'on a, c'est effectivement tout ce qui est en travail temporaire et intérimaire. Si ça ne redémarre pas, sachant qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui auront perdu leur emploi, même si pour l'instant on ne le sent pas trop, mais c'est surtout ces emplois précaires ou ces emplois à temps partiel ou ces emplois d'intérim. Si ça ne redémarre pas, là, ça devrait vraiment inquiétant. Sur le plan, je dirais, social, mais sur le plan psychique et psychologique des personnes. Parce que ces personnes-là qui essaient quand même de s'en sortir, si au bout d'un certain temps, elles ne voient pas le bout du tunnel, elles vont se décourager, quoi.
Alors que justement c'était ma prochaine question, c'est-à-dire que ici forcément elles viennent pour en général quelque chose de précis, alors que ce soit l'aide alimentaire ou une aide pour un dossier ou quelque chose, mais il y a aussi j'imagine l'échange avec le bénévole qui est très important.
Oui, tout à fait, c'est pour ça qu'on a une permanence d'accueil, hein, parce que ce sont des gens qui sont formés, hein, parce qu'on a un institut de formation national, donc toutes les personnes qui accueillent dans les permanences d'accueil ont eu cette formation là donc l'objectif c'était effectivement de discuter avec les gens, de voir un petit peu leurs problèmes, d'essayer de voir s'il y a des solutions. Donc ça impose à ces bénévoles d'être au courant un petit peu de tout ce qui se passe au niveau social, hein, au niveau des opportunités, que ce soit des opportunités de travail ou autre, hein, et c'est surtout de la discussion, et c'est vrai que le rapport n'est pas du tout le même. Pendant le premier confinement, si vous voulez, on a mis en place un système d'appel téléphonique, c'est-à-dire qu'on a été 5 ou 6 bénévoles, j'ai réparti le nombre de personnes qu'on aidait, et donc chacun avait sa liste de bénévoles, était censé téléphoner donc à ces personnes-là pour savoir un peu comment ça se passait, pour leur expliquer un petit peu aussi que notre fonctionnement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a été aussi très très apprécié au niveau des personnes, hein, de voir qu'on les appelait, puis qu'on s'intéressait à elles, qu'on leur donnait aussi des informations sur notre nouveau fonctionnement, mais on leur demandait aussi comment ça allait, si ça se passait pas trop mal, choses comme ça. Le fait d'en parler, déjà, on n'avait pas grand chose à leur offrir d'autre, mais le fait simplement d'être une écoute, je pense que c'est quelque chose d'important. L'écoute, c'est quelque chose qui est vraiment très très important.
Vous le ressentez peut-être encore plus aujourd'hui, finalement?
Oui, c'est lié de liens de confiance, hein, dans les personnes qui viennent, hein, qui n'hésitent pas à parler, que ce soit d'ailleurs les personnes de la permanence d'accueil ou les personnes sur le secteur, hein, parlent d'un petit problème, on connaît un peu le problème, on pose des questions par rapport à ça, donc ce ne sont pas des numéros ni des inconnus, quoi.
C'est tout cet aspect humain, j'imagine, qui vous plaît?
Tout à fait. C'est en plus dans mon ADN, sans doute. Hein, mais moi, j'adhère totalement et complètement à notre formule qui est tout ce qui est humain et nôtre. Et ça résume tout à fait le secours populaire, en fait. C'est-à-dire qu'on prend la personne telle qu'elle est avec ses problèmes en essayant, si possible, de ne pas juger parce que qu'est-ce qu'on a pour juger les gens? Mais c'est surtout ça, accueillir les personnes sans jugement, sans s'occuper des causes, parce que nous, les causes, on n'est pas à même de pouvoir les résoudre, mais sur les conséquences, essayer de faire en sorte que ces conséquences-là soient les moins dures possibles, quoi.
Et c'est aussi ce qui anime les 140 bénévoles actifs dans le département, à l'image de Claudine et Catherine.
Je m'appelle Claudine Pantier, je suis donc bénévole au Secours Populaire depuis 2008 maintenant. Et je m'occupe donc plus de l'alimentaire et de la distribution de jouets à Noël.
Moi, je suis Catherine Georges, je suis bénévole depuis 3 ans. Je suis plutôt polyvalente. Donc, un petit peu l'alimentaire, un petit peu le bazar, un petit peu l'accueil des nouveaux bénévoles. Je crois que d'abord, c'est le contact avec les bénéficiaires du Secours Populaire, mais c'est aussi la rencontre avec les autres bénévoles. Donc, ce sont les deux aspects.
C'est le contact humain aussi. Et puis, je trouve de connaître un petit peu les difficultés aussi des personnes assistées nous met un petit peu aussi, nous permet aussi de voir des différents types de familles. Et pareil aussi, l'échange aussi entre les bénévoles. Voilà. Parce que, on est bénévole, on aide, mais on est aidé aussi, on reçoit aussi, en fait. Hein. Je crois qu'il ne faut pas oublier ça non plus. On reçoit aussi des familles qu'on reçoit. Il y a eu beaucoup de dons, beaucoup plus de dons cette année. On a l'impression que les gens ont eu besoin justement aussi de donner la collecte de jouets, si vous voulez, beaucoup en quantité et en qualité. Donc ça, ça nous donnait du baume au cœur. Et il y avait aussi, par contre, beaucoup plus de jouets à distribuer puisque les familles aussi avaient augmenté. Mais bon, l'un dans l'autre, on a réussi et c'est bien. Ça se passe quand même bien parce que nous avons eu des subventions pour nous permettre d'acheter notamment des produits frais ou des légumes, des fruits, et puis des produits congelés aussi, des produits secs pour pouvoir un petit peu améliorer la distribution et augmenter un petit peu les repas des personnes assistées.
Ah oui, on a vu beaucoup plus de monde et on a dû aussi, on a beaucoup pratiqué la gratuité aussi cette année, hein, pendant la première période de confinement. Ce qui est absolument différent de ce qu'on fait d'habitude, où chacun paye un peu pour ce qu'il reçoit. Là, c'était vraiment la gratuité parce qu'il y avait des vrais besoins. Et des vrais besoins chez des gens qui n'avaient plus besoin et qui revenaient, ou des gens qui arrivaient pour la première fois. Mais c'est vrai qu'il y a eu une forte augmentation du nombre de gens qui ont reçu notre aide.
Et pour accompagner cette hausse, l'État a aussi augmenté les subventions accordées aux associations comme le Secours Populaire, qui distribue des produits alimentaires et des produits d'hygiène. Explication avec le préfet de la Mayenne, Jean-Francis Treffel.
L'État dispose de nombreux moyens d'intervention publique, mais il ne pourrait rien faire s'il ne pouvait pas bénéficier de relais sur le terrain. Et les associations, dont le Secours Populaire, est une de ces belles associations qui nous permet d'apporter un relais et de mettre en œuvre de façon concrète l'ensemble des moyens qui sont mobilisés par le niveau national. Le Secours Populaire ici, et c'est la raison de ma venue, a été exemplaire, comme l'ensemble du tissu associatif qui intervient pour les plus démunis entre nous dans ce département de la Mayenne. Cela a pris la forme d'aide alimentaire, bien évidemment, mais pas que cela. Également, des aides en vêtements, des aides à l'ameublement, des aides également au moment de Noël, à la distribution de livres ou de jouets pour les personnes les plus démunies. Et puis, nous sommes dans une période de crise sanitaire et cette année passée a été marquée par l'intervention du Secours Populaire, à la fois pour apporter des repas, mais également pour distribuer soit du gel hydroalcoolique, soit des masques pour pouvoir se protéger et respecter les gestes barrières. Et en ce domaine, l'État a distribué aux associations, à destination des plus démunis, 480 000 masques depuis un an, et le Secours Populaire en a bénéficié de près de 5 000. On peut considérer que l'aide aux associations a augmenté. Si je prends l'exemple du Secours Populaire où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est une aide qui est passée de 20 000 euros à 35 000 euros. C'est une aide qui a quasiment doublé pour cette association. En 2021, le soutien financier de l'État ne sera au moins équivalent à celui de l'année passée.
Soit près de 220 000 euros attribués cette année à 10 associations caritatives en Mayenne. C'est 4 fois plus qu'en 2019.